le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture pour le service protestant, ce cinquième dimanche du carême. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Francis Muller, secrétaire général de la Mission populaire évangélique de France, et il nous propose une réflexion autour du texte dit de la femme adultère.
Bonjour, je suis heureux ce matin de vous rejoindre par les ondes pour célébrer ensemble le Seigneur. Nous mettre à l'écoute de la parole, lui remettre ce qui nous pèse, et nous réjouir de sa grâce et de sa présence. Je vous propose de commencer ce moment ensemble par un temps de prière devant Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur. Tu nous appelles et tu nous invites à espérer. Tu cherches en nous, au fond de nous, tout ce qui peut nous raccrocher à toi. Tu connais nos vies, ce qui s'y déroule, souvent si vite, trop vite, tout s'y enchaîne, nos pensées, nos actes. Tu sais ce que nous ressentons, comment nous réagissons, parfois sans aucune bienveillance envers les autres, avec nos lâchetés. Viens vers nous avec ta parole, avec tes mots dans nos cœurs si déchirés. Tu connais nos souffrances. Tu les as vécues et les vis à nos côtés. Tu viens nous inviter à nous poser hors du tourbillon de la vie. Tu t'installes là, face à nous, et tu nous écoutes, à nous de te parler. Seigneur, aide-nous, viens à notre secours. Nous te remettons les jours passés de cette semaine qui vient de s'achever, tous nos instants de vie qui nous ont paru vides de ta présence. Nous déposons devant toi ce qui nous encombre, ce qui nous semble inutile pour te faire de l'espace. Nous voulons faire taire le bruit dans nos vies, le trouble dans nos cœurs, et faire de ce moment un temps d'accueil, pour recevoir ta grâce et ta présence. Merci d'être là, dans l'intimité de nos vies. Merci pour ta présence qui nous rassure et nous apaise. Merci pour ce souffle que tu fais passer dans nos vies. Je vous invite à poursuivre chacun votre prière en musique.
Je suis à toi et mon cœur est plein de joie. Je t'ai livré ma vie, faisons ce que tu voudras.
Amen, amen, oui, oui, oui. Amen, amen, oui, oui, oui.
Le bonheur de ma vie, c'est de t'avoir aimé et de t'avoir suivi sans broncher. Je t'avais tout donné. Tu as su me garder tout au long du sentier.
Amen, amen, oui, oui, oui. Amen, amen, oui, oui, oui. Amen, amen, oui, oui, oui. Amen, amen, oui, oui, oui.
Oui, Seigneur.
Oui, Seigneur.
Amen.
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 Oui, Seigneur.
Je vous invite à la louange et à l'espérance en écoutant le psaume 126 proposé pour ce dimanche. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Écoutons maintenant le chant d'un autre psaume. Dieu nous parle au travers des textes de la Bible. Dieu nous parle aussi par la bouche et le cœur de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui encore, il nous encourage à mettre l'amour de soi et l'amour des autres au premier plan dans nos vies, à nous engager pour que la justice remplace l'oppression, l'équité remplace l'exploitation, le partage remplace le pillage, la dignité remplace le mépris. Comme le dit une confession de foi de la Mission populaire évangélique de France. Ce que Dieu veut, ce sont des femmes et des hommes debout, qui habitent pleinement leur propre existence. Dieu veut notre bien, il nous guide vers le bonheur. Laissons-nous guider. En ce cinquième dimanche de carême, je vous propose maintenant de nous mettre à l'écoute de l'Évangile. Nous lirons dans le texte proposé pour ce dimanche, dans la liste de la Fédération protestante de France, dans l'Évangile selon Jean, au début du chapitre 8. Dès le point du jour, Jésus revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère et la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ?» Il parlait ainsi, dans l'intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant de nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus à nouveau leur adressa la parole « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Ce passage de l'évangile de Jean est un texte qui dérange et qui a dérangé dès le début de l'écriture des évangiles. Il n'apparaît que chez Jean. Il n'est donc pas présent dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et même dans l'évangile selon Jean, il n'apparaît pas dans tous les manuscrits. Beaucoup de copistes des premiers siècles l'ont fait « disparaître » entre guillemets, tant cet épisode les gênait. Et il nous dérange encore aujourd'hui. Alors je vous invite à nous laisser déranger. Tout dépend de ce que nous voulons en faire. La plupart des traductions et éditions de la Bible donnent pour titre à ce passage « La femme adultère ». Ce titre nous invite à une seule interprétation possible, une seule manière de voir ce texte, comme s'il n'y avait qu'un seul personnage dans cette histoire. Ce titre nous invite donc à une leçon de morale. La femme est adultère et nous nous préparons à ramasser les pierres de notre jugement pour viser, même moralement, cette femme adultère. En France, l'adultère n'est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975, mais demeure une faute civile. À l'époque de la femme adultère de l'évangile de Jean, les conditions étaient bien différentes. Les textes hébraïques indiquent que les amants devaient être mis à mort par lapidation. Pourtant, la Bible ne présente pas de récit où ce jugement après adultère ait été appliqué. Pourtant, combien de femmes meurent aujourd'hui de cette manière ? Parce que des fous disent appliquer une loi divine, la charia. Et où est l'homme adultère? Pourquoi n'y a-t-il que la femme qui soit prise en flagrant délit d'adultère? Les scribes et les pharisiens souhaitent condamner cette femme, pourtant les conditions de l'occupation romaine au temps du Christ font que seuls les fonctionnaires romains avaient le pouvoir de juger, de condamner et de faire mettre à mort. D'où, par exemple, le passage de Jésus devant Pilate. Je vous propose d'aborder cet épisode, non par son titre donné dans nos traductions, mais du point de vue d'un personnage, ou plutôt d'un objet, un peu particulier. Cet objet qu'on cite souvent, même parfois en dehors de cette histoire biblique, c'est la pierre. On imagine bien Jésus assis tranquillement, sur quelques marches d'un escalier du temple en train d'enseigner. C'est d'ailleurs le titre que lui donnent les pharisiens et les scribes en arrivant, « maître », c'est-à-dire celui qui est chargé d'enseigner, qui a cette fonction d'enseignement. Donc Jésus est tranquillement en train d'enseigner un groupe appelé le peuple. Arrive une troupe masculine, très certainement, des scribes et des pharisiens, tonitruante, troublant et interrompant le discours de Jésus et plaçant une femme au milieu. On se représente bien ces hommes, une pierre à la main, prêts à la jeter. Essayons de figer dans notre imagination cette scène. Arrêt sur image. Je vous propose donc de figer cette image en vous et de l'observer pendant quelques secondes de musique. Je vous proposais, il y a quelques instants, de faire un arrêt sur image. Je ne sais pas ce que vous avez gardé en tête. Cela rejoindra peut-être ma représentation. Mon image est celle d'un groupe d'hommes, une pierre à la main, prêts à lapider une femme adultère placée au milieu devant Jésus. Essayons avec ma représentation de cette scène de voir qui est visé par les pierres de ce récit. Étudions la trajectoire possible de ces cailloux. Le texte de l'Évangile nous y aide. Au verset 5, il est dit « Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. » La première trajectoire part de la main de chacun de ces hommes en direction de ces femmes-là. Mais il n'y en a qu'une. Il va falloir bien viser. Le texte nous indique encore une deuxième trajectoire comme par ricochet. Au verset suivant, au verset 6, il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. En fait, la vraie trajectoire de toutes ces pierres entre leurs mains, elle va vers Jésus. Le seul qui soit vraiment visé, c'est Jésus, bien sûr. Et il se baisse, comme pour éviter un premier jet de pierre. Les questions fusent aussi comme des pierres. Il se redresse et ramasse peut-être lui-même une pierre et la fait repartir symboliquement vers ses hommes en rage. Voilà encore une autre trajectoire pour ces pierres. Dans ces trajectoires, la femme disparaît. Elle n'était pour ces hommes que l'amorce du tir croisé entre Jésus et ses détracteurs. Vient enfin dans la bouche de Jésus ses premiers mots, cette belle phrase que nous pensons très pertinente, astucieuse, extrêmement intelligente. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette phrase est tout cela à la fois, c'est vrai, mais elle est aussi la proposition d'une méthode d'exécution. Jésus propose la pleine exécution de la loi, un jugement, une condamnation, la sentence et aussi la manière de former le peloton d'exécution. La dernière trajectoire pour les pierres de ce récit est de retourner à terre. L'image qui me vient, ce sont ces hommes, l'un après l'autre, lâchant sa pierre, la laissant tomber à terre et sortant de l'attroupement. Un attroupement qui se réduit, s'amenuise, s'effrite comme des pierres et disparaît. L'attroupement de ces hommes qui voulaient lapider une femme a disparu. Le texte nous dit que Jésus resta seul. Que signifie ce mot « seul » ? Car en réalité, il n'est pas seul. Il y a la foule, les spectateurs de cet événement. Et bien sûr, il y a la femme. Il me semble que, pour l'auteur de l'Évangile, Jésus est peut-être le seul à pouvoir condamner, le seul à pouvoir jeter la pierre. Et le texte poursuit en nous disant que la femme est toujours là au milieu. Au milieu de quoi ? Au milieu de la société ? Au milieu de ces ténèbres ? Dans le verset qui suit immédiatement cet épisode, Jésus déclare à ceux qui l'entourent « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Je me suis permis de rattacher ce verset à notre passage de l'Évangile de ce jour, car j'y vois peut-être une adresse à la femme qui vient de sortir de ces ténèbres, une invitation à entrer dans la lumière. J'évoquais au début de cette méditation la gêne qu'a provoqué ce passage chez les copistes du Nouveau Testament. Ils y ont peut-être vu un exemple d'indifférence morale, une forme de laxisme de la part de Jésus. Ce n'est pas un exemple d'indifférence ou de laxisme. La preuve. À la fin, Jésus dit « ne pêche plus ». Il considère donc qu'elle a péché. Pourtant, malgré les injonctions de la loi, il ne la condamne pas. Pourquoi ? Nous sommes chez l'évangéliste Jean. Souvenons-nous qu'il insiste souvent sur le thème du jugement. En voici quelques exemples. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Voici ce qui est dit donc dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Et ce tribunal n'est pas ordinaire. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Jean chapitre 3. C'est un jugement de salut, un jugement comme nous n'en connaissons pas. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes là au chapitre 5. Tout cela, nous pouvons le vivre en nous demandant qui est Jésus pour nous. Est-il un maître, un enseignant, celui qui apporte une morale, des préceptes, qu'il suffit d'appliquer pour rester fidèle à une loi? Maître est le titre que les pharisiens et les scribes donnent à Jésus, même de manière hypocrite. La femme, devant Jésus, emploie un autre terme, en grec « kurios », « seigneur », qui peut être un simple « monsieur », mais ce terme de « seigneur » me semble prendre tout son sens quand on l'attribue à Jésus comme le Seigneur, le Sauveur. Ainsi, ce texte de l'Évangile de ce matin nous invite à passer de maître à Seigneur dans notre relation à Jésus le Christ. Il nous invite aussi à passer de la morale et du jugement sur nous-mêmes et sur les autres au pardon et à la grâce reçue. Il nous invite à vivre de cette grâce dans la lumière pour nous de manière individuelle dans notre foi personnelle, mais aussi collectivement dans les groupes que nous sommes amenés à fréquenter. À chaque instant, en toutes circonstances, vivons de la grâce. Amen.
Parlez, je voudrais parler à tous les hommes. Parlez, je voudrais parler à tous les hommes de mon quartier. Parlez, je voudrais parler à tous les hommes. Parlez, je voudrais parler à tous les hommes de mon quartier. Mais que je donc à leur dire de tellement important, eux qui pour penser et rire ne trouvent jamais le temps. Le quotidien les accable, aujourd'hui et comme hier, l'atelier, le lit, la table ont bouché leur univers. Parler, je voudrais parler à tous les hommes. Parler, je voudrais parler à tous les hommes de mon quartier. Pour briser leur solitude, aller vers eux et savoir, effacer la lassitude en nourrissant leur espoir. Pour demeurer à l'écoute de leur peine et de leur joie, et pour faire un bout de route ensemble au moins une fois. Parler, je voudrais parler à tous les hommes. Parler, je voudrais parler à tous les hommes de mon quartier.
Je vous invite maintenant à prier pour nous-mêmes et pour les autres. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes de la force d'aller vers les autres et de partager la bonne nouvelle. S'il te plaît, donne-nous le courage de nous tenir dans l'humilité, de ne pas imposer notre volonté au nom de la tienne. Donne-nous ta puissance, non pour engager un bras de fer, mais pour briser les chaînes de servitude. Donne-nous ta vigueur, toi qui donnes et redonnes la vie, pour que nous assumions notre faiblesse et notre finitude. Apprends-nous à tous, croyants et non-croyants, qu'être humain, ce n'est pas être le plus fort, mais c'est être en relation avec les autres. C'est se reconnaître toujours imparfait, inabouti. Nourris-nous de ton souffle saint, mets en nous un esprit d'amour, de consolation et de réconciliation, d'ouverture vers les autres. Nourris-nous de ta parole, fais de nous des passeurs de mots, que de nos bouches les paroles que tu nous inspires éclosent, comme des fleurs sauvages, qu'elles touchent les gens au-delà des mots. Nous avons appris la valeur de ton silence, mais nous savons que c'est en nous disant « je t'aime » que tu nous remets debout. Rappelle-nous qu'autour de nous, il y a des gens qui n'entendent jamais dire qu'on les aime, des gens avec qui partager, à qui témoigner de ta présence et de ton amour. Amen. Nous nous dirigeons vers la fin de ce temps ensemble par les ondes. Rappelons-nous que notre cheminement est toujours porté par une promesse, la rencontre avec Dieu, qui donne sens à nos vies. Cette rencontre se fait dans le tissage des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu, dans tous les visages de femmes et d'hommes en qui nous reconnaissons un frère et une sœur en Christ, dans tous les mots de la Bible qui disent l'amour de Dieu pour notre monde. Alors, remettons-nous en route sur les chemins de nos vies. Au Moyen-Âge, un prêtre nommé Patrick a arpenté l'Irlande pour évangéliser ses habitants. Il affirmait « J'avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui, la puissance de Dieu pour me protéger, la sagesse de Dieu pour me guider. » Eh bien, qu'aujourd'hui et demain, l'Évangile soit votre bâton de pèlerin, que l'amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe, que sa parole soit l'étoile qui vous guide, que l'amour du prochain soit la force qui vous met en mouvement, et que la grâce de Dieu vous garde sur votre chemin. Excellent dimanche à tous sur les ondes. À bientôt.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Francis Muller, secrétaire général de la Mission populaire évangélique de France. Merci à Viviane Noël et à Cédric Chatelus pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez recevoir le texte de cette émission par courrier si vous écrivez au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Sinon, bien sûr, vous retrouvez cette émission, son texte, la réécoute sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Dans un instant, à suivre le journal, puis retrouver Marc-Alain Wacknin pour Talmudic. Et puis ce soir, cet après-midi, plus exactement à 16h, je vous retrouve avec Louis Pernaud pour les conférences du carême protestant. Bon dimanche à tous.